à la fin des années 70, deux hommes habillés tout en blanc vont surgir simultanément sur la scène internationale. Le premier est un ancien nageur polonais, élu pape en 1978, à l'âge de 58 ans, sous le patronyme de Jean-Paul II. Le second, lui aussi vêtu tout en blanc, apparaît pour la première fois à la télévision française le 7 mai 1979.
Il a 20 ans, il a battu le numéro 2 mondial Jimmy Connors en 3-7 samedi, et cette nuit, il n'a laissé qu'une manche au numéro 1 Björn Borg. Il, c'est John McEnroe, aujourd'hui considéré comme le meilleur joueur du monde en salle. Björn Borg et McEnroe s'étaient rencontrés 4 fois, ils s'étaient partagé les victoires, mais on ne mettait pas vraiment la supériorité du Suédois en doute. C'est chose faite maintenant avec la victoire de McEnroe dans ce tournoi de Dallas, réservé aux 8 meilleurs joueurs mondiaux et qui a permis aux vainqueurs d'empocher la coquette somme de 100 000 dollars.
Lorsque John McEnroe surgit sur la scène du tennis mondial, c'est un jeune New-Yorkais de 20 ans et nous sommes en pleine vague du punk. Les Ramones, par exemple, groupe de punk new-yorkais, sont à leur sommet. Alors avec le recul, Thomas Ravier, cette naissance de John McEnroe, elle n'est pas totalement... Inouï, il est à l'unisson de son époque, finalement, ce John McEnroe.
Vous avez tout à fait raison, McEnroe, c'est un son, d'une certaine manière, en tout cas, son jeu. Alors, punk, je sais pas, ou alors c'est un punk vraiment mélodieux, un punk avec une lyre, si vous voulez. Moi, j'ai dans le livre que je lui ai consacré, Le Scandale McEnroe...
Excellent livre chez Gallimard.
Bon, très bien, j'ai dédié mon livre à Max Roach, le grand batteur de jazz, parce que pour moi, il y avait vraiment... j'avais envie de mettre en avant ce swing et cette légèreté de McEnroe. Et, j'ai rencontré donc McEnroe, j'ai eu la chance de le rencontrer à l'Open de Stockholm en 2007, parce qu'il était venu jouer le double. Donc j'ai eu quelques minutes extrêmement comptées avec lui. Et il y avait une question, je lui ai remis mon livre, j'avais une question à lui poser. Je voulais absolument savoir, entre-temps, par rapport à sa carrière et le tournoi de Dallas, les conditions de jeu techniquement avaient beaucoup évolué. Et on était après l'installation du hokai, c'est-à-dire la possibilité de juger d'un litige. Techniquement.
Électroniquement.
Oui. Oui. Électroniquement. Et donc, je voulais savoir si McEnroe, fort de son extravagance théâtrale, aurait eu cette audace dramaturgique de contester le Hawkeyes. C'était une question qui l'a plongé dans un abîme vertigineux. Il s'est levé et il s'est dirigé vers la porte de sortie. J'ai eu juste le temps de me précipiter vers lui pour lui demander de signer mon livre. Mais je lui ai dit, donc voulez-vous, dans mon anglais un petit peu négligent, voulez-vous signer mon livre? Et il m'a dit, laissez-moi y réfléchir. Et il est parti.
Du grand McEnroe, du grand McEnroe.
Extraordinaire.
Catherine Tanvier, vous êtes une ancienne championne de tennis, numéro 1 du tennis français dans les années 80, à l'époque de McEnroe. Quel regard vous portiez sur ce champion américain, John McEnroe?
J'étais fascinée déjà par le bonhomme, mais déjà, bien avant d'avoir été joueuse professionnelle, je le suis, moi, déjà, dès lors à l'âge de 15 ans, mais bien avant, j'admirais le grand attaquant. Excusez-moi, j'ai un problème avec la voix.
Allez-y, buvez un petit peu d'eau, ça ira mieux, je suis sûre.
Mais c'est d'abord une bande-son, la bande-son de ma vie. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'admirais déjà Björn Borg, mais quand il est confronté à McEnroe, je vois là effectivement un grand personnage devant moi, un grand attaquant qui m'inspirera d'ailleurs, puisque je deviendrai attaquante de par l'inspiration qui m'a donné à...
Attaquant, ça veut dire service volé, par exemple. On sait, on va la voler tout de suite. Donc un jeu d'attaque que vous jouiez, d'ailleurs vous pratiquiez ce jeu-là.
Exactement, mais c'est exactement ce que dit Thomas, c'est une tonalité avec plein de variations. C'est dans le sens où c'est beaucoup de bruit entre les points, et une finesse de jeu et une légèreté dans son jeu, dans les points. Voilà, c'est vraiment quand je parle de variations, hein, de plein de variations, c'est ça. Et croyez-moi, c'était aussi le côté théâtral, beaucoup de bruit entre les points. Cet homme savait prendre l'espace et exister par la parole. La parole, on l'entendait à cette époque-là. Aujourd'hui, elle est morte.
Mmh, c'est tout à vrai, d'ailleurs. Pardon. Thomas Ravier, on va reprendre depuis le début rapidement. Il est né en 1959 en RFA à Wiesbaden. John McEnroe, son père était militaire sur une base américaine. Ouais. La famille rentre très vite à New York dans le Queens. Oui. il grandit dans un quartier qui ressemble à quoi ? C'est quoi la jeunesse de McEnroe dans ses premières années d'adolescence ?
Oh, c'est quand même une jeunesse assez confortable. Mm-hmm. Mais enfin, on peut signaler, en effet, qu'il grandit dans le Queens. Le Queens, c'est quand même le berceau du rap américain.
C'est important.
À New York. C'est très important parce que McEnroe est absolument indissociable de New York.
Oui.
Comme je dis dans mon livre, il a croqué dans la pomme, dans la grosse pomme. Donc à partir de là, effectivement, il y a tout un lot de catastrophes et d'animosité. Parce que vous souvenez qu'il était surnommé le champion que vous aimeriez haïr.
Mm-hmm.
Il avait repris ce...
Il en a tellement eu des...
Oui. Ouais. Non, mais il avait ça... moi, j'ai voulu consacrer un livre à McEnroe parce que ce qui m'intéresse, en réalité, c'est cette haine inconsciente du style dont parlait Flaubert. C'est-à-dire de voir comment tous les personnages, les grands artistes extravagants, quelle que soit la discipline, le sport, la musique, vont toujours, d'une manière ou d'une autre, susciter une protestation, une sorte d'inquiétude dans la foule.
Et donc une fascination. Et,
évidemment, mmh.
Ça marche dans les deux sens. Mais cette dimension, il y a le joueur et il y a cette dimension de l'homme sociologiquement. Il vient de New York. C'est New York, c'est une ville où c'est une jungle. Pour réussir, c'est soit vous bouffez l'autre, ou soit c'est vous qui vous faites manger. Donc on sent bien qu'il y a quand même le langage urbain, le langage
totalement.
Très dur.
Le Queens, Thomas dit, c'est le monde du rap, enfin le quartier légendaire du rap. Oui. On s'invective dans la rue. On s'insulte, mais presque comme un art. C'est pas non plus une insulte vulgaire.
Oui.
C'est que on se parle et on s'invective. Et McEnroe a ramené ça au tennis.
Oui, et il rappellera souvent d'ailleurs en disant. Notamment en Angleterre, où il a connu les plus gros problèmes à Wimbledon, il dira « N'oubliez pas que je viens, moi, de New York. Je ne suis pas d'Angleterre. » Dans le sens « get it right », comprenez-le.
Absolument.
C'est une culture orale. C'est une culture du défi, c'est une culture
oui.
orale. Et en effet, c'est ça le scandale McEnroe.
Voilà.
C'est qu'il a introduit ça dans le monde policé des country clubs. Et d'ailleurs, ce qui est extrêmement intéressant, c'est cette double culture. C'est-à-dire qu'il y a à la fois son génie tennistique, Catherine a tout à fait raison, donc c'est ce contraste baroque entre un silence, une intensité de silence absolument prodigieuse, et en même temps ce bruit et cette fureur.
Ce langage violent.
Ce langage violent. Et en même temps, effectivement, il y a une véritable carrière verbale qu'il a menée.
Voilà.
S'adresser à l'arbitre de Wimbledon en lui disant, vous allez m'excuser encore pour mon accent,
allez-y.
You are the absolute pit of the world. Mm. Vous êtes la racine de ce monde.
Bah, fosses du monde. Hein.
Les
fosses du monde.
Mm-hmm. Les fosses, oui.
C'est
le pire qu'on peut dire. Mais il y a quelque chose, il y a une sorte de grandeur, c'est-à-dire que c'est presque une sorte d'apostrophe shakespearienne.
Mais comme un clash de rappeurs, justement.
Oui, exactement. Mm-hmm. Et si on prend Federer aujourd'hui, qui pourrait représenter une sorte de relève par rapport au talent, au génie absolu, mais Federer est profondément aphasique.
Totalement.
Et évidemment, il est beaucoup mieux perçu par les foules, il est beaucoup mieux perçu par les masses.
Il est soumis au marché.
Absolument.
Tout simplement ce que vous dites dans le livre, c'est vrai.
Catherine Tornier, vous disiez aussi dans ce livre « Je me lâche mes coups » donc chez Solar, c'est réflexion tennistique, qu'en fait sa colère, elle était aussi très utile.
Bien
ça permet de se libérer, cette colère. C'est pas une colère comme ça, c'est une colère qui est maligne.
Qui arrivait, c'était d'ailleurs souvent suivi par un ace. c'était ça le génie
de
McEnroe.
Ace, c'est service au point, je fais le sous-titrage.
Absolument, mais c'était une nécessité pour lui d'exister entre les points, et notamment dans une situation qui n'était pas en sa faveur. Donc il avait l'art de créer d'autres situations en dehors d'un coup droit ou d'un revers pour placer une prodigieuse contestation. Ça permettait à tout le monde de faire voir qui était encore le patron. C'était tout l'art à cette époque-là. Il y avait Connors Thomas présente
Jimmy
comme,
Connors,
comme un terroriste trivial.
Dans les jardins diaphanes de l'aristocratie.
Mais ces gars-là avaient en détestation en tout premier lieu l'idée même de la défaite. Aujourd'hui, on sent que la défaite ne touche pas grand monde. Mais à ce moment-là, oui, McEnroe avait l'art de placer des attaques autres que sous le terme du tennis, d'un coup droit ou d'un revers.
D'ailleurs, Thomas Rieu, vous dites que le meilleur coup de McEnroe, ce n'est pas son revers ou son service, le meilleur coup, c'est le coup de théâtre.
Ah.
Il savait se mettre en scène, en fait, McEnroe.
Oui,
c'est une colère. La colère, pour lui, n'est pas mauvaise conseillère. En effet, à travers sa colère, il se remobilisait.
Voilà.
Si vous regardez aujourd'hui les archives dans les crises les plus extravagantes qu'il a pu avoir, on n'est pas loin d'une sorte de transe aussi.
Oui. Mais d'une grande précision. C'est-à-dire C'est-à-dire que son papa était avocat. Donc il avait je pense que l'injustice chez lui était très forte. Dès qu'il l'a senti, il avait besoin. Il avait vraiment. Mais cela dit, c'est le mec le plus malhonnête hein, quand il discutait. Quand la balle était dehors,
mauvaise
il
disait qu'il
était... Oui, mauvaise foi, mauvaise absolument. Foi. Mm. Mais c'est là où il était d'une aussi. Lorsqu'il était exaspéré, c'était des fausses exaspérations. Ses colères étaient de toutes pièces montées. C'était un gars qui plaçait des attaques. Qui était d'une grande précision à chaque fois.
Est-ce qu'il a pu vous inspirer ? Je crois que oui, parce que vous aviez donc une grande carrière de tennis, mais je crois qu'il y a une histoire dans un tournoi à Rome où vous avez vu des gestes dignes de McEnroe. Vous nous racontez un peu ça ou pas ?
Oui, en fait, je joue une Italienne qui était d'ailleurs Raffaele Reggi. À l'époque, elle était numéro 1 italienne. Et je ne sais pas, il y avait des étudiants français qui étaient venus me voir. Et ils étaient vraiment très respectueux de mes adversaires. J'étais en double. Je jouais avec Virginia Rizzucci, grande joueuse roumaine qui a gagné Roland Garros, et je me fais siffler justement tout simplement parce que j'ai des supporters français qui m'applaudissent dès que je marque un point, mais vraiment il y avait une mauvaise intention de la part du public italien qui commençait vraiment à être désagréable, et notamment c'était juste une rangée de gars qui étaient juste derrière moi. À un moment donné, ça m'insupporte, tranquillement il est 9h30 du soir, et ce jour-là il faisait plutôt froid. Je prends un verre, mais glacé, rempli de glaçons, je me lève tranquillement et là je les asperge. Standing ovation les
des
supporters français qui étaient absolument ravis, etc. Mais c'était plus fort que moi. Je les avais absolument arrosés. Virginia s'est tournée vers moi et m'a dit « Qu'est-ce que tu fais, Cathy ?» J'avais juste répondu un petit peu à la McEnroe. Oui,
à la McEnroe,
mais
bien
totalement.
Sûr.
Je me suis finalement... Le fait que je reçois quand même une pénalité, enfin un avertissement, pas une pénalité encore, je me suis tournée vers l'arbitre. Je lui ai dit « Mais monsieur, faites votre travail. » Faites vos travaux, calmez-les, ils n'ont pas le droit de m'insulter. En fait, ce que je recevais, c'est en clair, c'était dégage et rentre chez toi. Mm-hmm. Et à un moment donné, une fois, deux fois, trois fois, je me suis retournée, je les ai arrosés.
À la McEnroe.
Et voilà, ça c'est de. Exactement. Mais oui, influence.
Mais
oui,
c'est une influence,
par
évidemment.
Par ces grands personnages, ils m'ont indirectement influencé.
Absolument.
Ça, je confirme.
Vous écrivez, Thomas, dans ce livre, pour décrire l'esprit de McEnroe, John McEnroe ne se complique pas la vie, il ne participe pas. Il ne se laisse convaincre que si ça l'enchante. Alors, une des concrétisations de ce caractère entier, c'est l'affaire Ronald Reagan en 1981. Est-ce qu'on peut raconter ça rapidement? Reagan, alors non, il me regarde.
Il refuse.
En fait, voilà, c'est qu'en 81,
l'invitation.
Voilà, c'est qu'il gagne le US Open quand même. 81, Reagan vient d'arriver à la Maison Blanche, donc il veut recevoir les deux gagnants, hommes et femmes, de l'US Open. Et McEnroe dit non, ça ne m'intéresse pas du tout, je ne vais pas y aller. Sauf que la mère de John McEnroe a peur, parce qu'elle lui dit « Tu peux pas refuser, c'est le président des États-Unis. »
C'est pas sa maman qui sait.
C'est sa mère qui dit « Tu vas y aller. » Donc en fait, il y va, il a peur, mais sur la photo, on voit qu'il en a rien à secouer. Donc il est assez comme... Il est fantastique. C'est une manière d'être qu'on n'a plus aujourd'hui, en fait, aujourd'hui.
Mais bien
Thomas.
Sûr, il faut dire quelque chose. C'est qu'on a dit, je crois que c'est 73 ou 75, le tennis passe d'amateur à professionnel. Mais c'est pas seulement le tennis, c'est le monde qui est passé. Et le passage de McEnroe à Federer, c'est le passage d'un monde d'amateur à un monde de professionnels.
Plus rock'n'roll et maintenant beaucoup plus aseptisé.
Extrêmement, et avec une sorte de totalitarisme pour notre bien.
Je confirme, aujourd'hui, les gars ne sortent plus, ne boivent plus, ne font plus rien. À cette époque, c'était plus rock'n'roll. C'est ça.
Mais quand vous voyez, par exemple, aussi, il y a cette dimension clanique maintenant. Vous avez, par exemple, quand vous avez Djokovic, vous avez son clan. C'est mafieux. Franchement, on a l'impression que si Djokovic perd, il va se faire tabasser dans les vestiaires. Vous avez ces 10 mecs qui sont comme ça, comme des malabars.
Non, ils sont en fait au garde à vous. Ils ont très peur.
Oui, ils sont garde à vous. Mais enfin,
ça envoie une image bizarre.
Une tonalité
très
inquiétante. Alors, c'est l'industrie de l'ennui. Ouais. C'est-à-dire que vous avez ces speeches de remerciement. Il y a de quoi mourir d'ennui. On est au fin fond de la province du 19e siècle. Donc maintenant, il faut remercier aussi l'équipe de l'adversaire. Bientôt, ils vont remercier peut-être la maîtresse du mari, de la femme. Enfin, c'est tout ça.
On fait tout dans la com.
Et tout ça est d'un ennui. Ça ennuie évidemment tout le monde. Ça ennuie les joueurs. Mais aucun joueur ne peut contester cette espèce de planification sordide qui est liée à l'économie.
McEnroe nous manque, évidemment.
Noah savait très bien aussi, s'inscrivait dans
un amateur supérieur.
Il savait donner aussi, il savait communiquer avec le public, autrement que comme ça, de manière sceptisée.
18h35 sur Inter, on fait une pause, c'est l'heure de l'orchestre, dirigé ce soir par Vanessa Paradis. Ce soir, elle chante La Seine, ainsi soit-il.
La Seine, tellement jolie, elle m'ensorcelle. La Seine, la Seine. Touché une raquette sur le circuit professionnel depuis 13 ans, mais John McEnroe a surpris une fois de plus ses adversaires.
L'œil du tigre.
Il a remporté le tournoi de San José en Californie en double avec le Suédois Björkman. En marge de ses belles performances,
Philippe Collin.
Il a aussi renoué avec ses attitudes provocatrices et belliqueuses avec les arbitres du vrai McEnroe.
Sur France Inter.
Au début des années 80, John McEnroe est au sommet de sa gloire. C'est alors que les rasoirs jetables Bic cherchent un nouveau champion pour assurer la promotion de leur marque à la télévision. Jusqu'à présent, c'était Raymond Poulidor. Mais assez curieusement, en 1983, les rasoirs Bic vont choisir ce joueur mal rasé, ce rebelle new-yorkais, pour assurer leur publicité.
Mr. McEnroe, that's a very close shave.
You must be joking! The ball is in!
No, Mr. McEnroe, your shave. It's very close.
Of course! I shave with Bic!
You earn millions and shave with a 20-cent Bic?
Look, why pay more for fancy handles and tricky tops when I get lots of close shaves with Bic?
And that is McEnroe.
He's right. I don't have to shave with a 20-cent Bic. But I do.
Thomas Ravi, cette publicité de 1983, elle dit encore beaucoup de choses sur ce qu'incarne McEnroe dans les années 80. Il est l'incarnation de son époque aussi, curieusement, à travers ce petit spot publicitaire.
Oui, bah c'est cette espèce de rébellion qui va devenir petit à petit une sorte de fond de commerce aussi, et peut-être qui va le piéger aussi à un moment. C'est-à-dire qu'il faut quand même, ça peut-être Catherine en parlera mieux, penser que finalement sa carrière par rapport à la domination qu'il a exercée a été relativement courte. C'est-à-dire que à 25 ans... Dans la domination, à partir de 25 ans, il n'a plus gagné un grand chelem quand même.
Vous imaginez
à quel âge Federer
c'est vrai, mais il joue un rôle encore extrêmement important. C'est-à-dire que John McEnroe, même à 30 ans, il remplit les salles.
Oui, c'est un fonds de commerce.
Non, c'est aussi... Écoutez, je l'ai vu à 32 ans jouer contre Boris Becker, qui est tenant de titre à ce moment-là à l'Open d'Australie, sur un huitième de finale.
Le quart de finale.
Et je suis toujours en course, puisque j'ai été aussi huitième de finale plusieurs fois là-bas. Et je me dis, ce match-là, je vais y aller. Ils sont en session ce soir, à 8h du soir. Je dis non, je retourne au stade, je ne veux pas rater ce match-là. Et je vais au Player Lounge, l'endroit où les joueurs attendent, et je vois attablé comme ça, avec son épouse, Boris, comme ça. Il n'était pas du tout en train de s'échauffer ou quoi que ce soit. Mais qui je croise avant d'arriver dans le Player Lounge ? McEnroe, qui avait la casquette vissée sur sa tête, une raquette à la main et qui commençait déjà à faire les 100 pas. Et il passait devant Boris pour dire « je vais t'avoir, je vais te goûter ce soir, je vais t'avoir ». Mais le match avait déjà commencé, c'est-à-dire que l'atmosphère était déjà électrique. Je dis « oh, qu'est-ce que j'ai bien fait de venir, il va se passer quelque chose ». Et effectivement, quand le match est lancé, Boris gardera, à l'époque on avait, vous savez, ces débardeurs qu'on gardait comme ça. Je dis « il est quand même gonflé de garder le débardeur au bout de 3 jeux, il fait quand même un peu lourd ». C'est pas si frais que ça. Et il le gardera juste pour montrer à McEnroe qu'il n'a pas chaud. Pour lui, c'est un... Sauf que McEnroe, filière courte, il contre et il contre toutes ses secondes, il les contre et il suit au filet. Il le prend à la gorge. Ça fera 6-4, je dis, il va quand même se réveiller un petit peu ou mettre un peu plus d'intensité, le grand Boris. Parce que là, il était tête de série numéro 1, il était aussi défendant du titre. S'il ne se réveille pas, il va se faire vraiment battre par McEnroe. Eh bien, il commence un petit peu à appuyer un petit peu et mettre un petit peu plus d'intensité dans son jeu, mais ça ne suffit pas. Il repère le deuxième 6-4 et le troisième, ça va très vite. C'était un vrai match de boxe. Boris, quand même, à ce moment-là, dans le troisième, il commence vraiment à envoyer du lourd, mais c'est trop tard. C'est-à-dire, quand on a une telle avance dans le score, un gars comme McEnroe sait jouer. Il a 32 ans et il corrigera McEnroe. Il ferait juste demi-finale cette année-là. Mmh. Mais quel grand joueur encore. Formidable combattant. Il est sorti en levant la raquette et le poing comme ça, comme un boxeur qui venait de mettre KO un poids lourd.
Un boxeur surfeur, parce que si vous vous souvenez bien, il avait le cran total énormément dans ses matchs.
C'était
parce que c'est l'année d'avant où il avait été disqualifié contre Penn Force.
C'était un match assez incroyable.
Et là, il avait l'air vraiment avec.
Oui, mais ça, c'était du produit qu'on mettait contre l'écran.
Oui, mais bon, lui.
C'est vrai que ça faisait drôle.
On aurait dit le Joker, c'était curieux.
Alors, je vais faire rentrer dans cette discussion Dominique Besnéard maintenant, parce que pendant le disque de Vanessa Paradis, on a parlé un peu d'une époque, les années 80, durant laquelle Dominique s'est occupé beaucoup d'actrices, aujourd'hui encore, mais une actrice comme Béatrice Dalle, par exemple, Dominique, elle a quelque chose de McEnroe en elle, un côté un peu, on va dire, punk, irrévérencieux. Aujourd'hui, ça a disparu, ça aussi, dans le cinéma, Dominique.
Ouais, elles sont un petit basses. Comme vous disiez, maintenant, tout est formaté, les gens sont trop propres, enfin, trop propres moralement, enfin, pas moralement, avec tout ce qui se passe en ce moment, mais je veux dire, c'est des vieilles histoires. Mais là, je pense pas, mais je pense que les jeunes producteurs, ils ressemblent pas à ceux de bien sûr.
Enfin,
donc là, c'est vrai que moi, je les vois très bien. Les jeunes actrices correspondent aux jeunes tennisman de maintenant.
D'aujourd'hui.
C'est vrai.
Ils sont un peu propres.
Il n'y a plus le côté effronté.
Elles dorment avec leurs sponsors. Mais c'est l'industrie du bien. On est vraiment dans l'industrie d'un.
Il n'y a plus d'insurgés, il n'y a plus d'anarchistes, vraiment. Et ces gars-là savaient faire ça.
Mercredi prochain va sortir au cinéma, Dominique, ce film donc, de Janus Pedersen qui s'appelle donc Borg McEnroe. Ça, c'est important aussi parce qu'on ne peut pas évoquer McEnroe sans évoquer Borg, Thomas Ravier. Ils se sont nourris l'un l'autre. Il y a le flegmatique et le fiévreux, il y a le christique et l'endiablé. C'est vraiment un duo qui a très très bien fonctionné et peut-être que McEnroe ne serait pas devenu ce qu'il est encore aujourd'hui sans Borg. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais exactement, il y a eu un syndrome, c'est-à-dire la retraite de Borg a précipité McEnroe dans une sorte de désarroi tennistique.
Il le dit, il
s'en est pas caché. Il a perdu tous ses titres du Grand Chelem.
Parce que Borg s'arrête très tôt.
Il dit, en fait,
j'ai tout gagné, je m'arrête.
Regardez, le jeu de McEnroe a été conçu quand même comme un antidote au jeu de Borg.
C'est-à-dire, sur le plan de
la temporalité, il s'agissait vraiment de briser.
Long contre filière.
C'est tout à fait ça. Et vous dites, pardon, christique, pour moi, le vrai christique, c'est McEnroe. Alors, il n'a peut-être pas le profil, mais d'ailleurs, quand vous le voyez...
Une tête d'ange.
Il ressemble, quand il était jeune, avec ce poupon échevelé, il a exactement la tête de Rembrandt dans ses autoportraits. Vous pourrez vérifier, c'est assez amusant. Mais quand il est venu à Stockholm, qui a eu une de ses plus grosses crises, où il a été disqualifié, il y a eu une image absolument saisissante. Il a quand même lancé son verre de soda sur le roi de Suède. Bon, on y va. Les protestants en tremblent encore. Imaginez.
Ah ben c'est sûr, c'est des McEnroe.
Et alors, il est venu sur la scène, il était totalement... Il a écarté les bras, comme ça, en demandant ça, d'une certaine manière sa crucifixion. Il demandait sa disqualification. Il voulait vraiment peut-être...
Une rédemption.
Ce qu'il créait avant tout, c'était vraiment un sentiment de danger. À n'importe quel moment, il pouvait se passer quelque chose. C'était ça. Il était vraiment prompt à prendre feu, ce mec-là. Et il prenait feu. Borg était présenté comme la glace contre le feu.
Iceborg.
Iceborg contre McEnroe, le feu.
Il faut raconter qu'en 2006, Borg va pas très bien, il a une sortie de carrière compliquée, Borg, il perd beaucoup d'argent, il est un peu dépressif. Il veut vendre aux enchères ses 5 trophées gagnés à Wimbledon. Donc on le sait, ça sort dans les médias. Il paraît, la légende raconte que McEnroe l'aurait appelé pour lui dire « tu ne vends pas ça, tu les gardes, c'est ta légende, c'est la mienne et je veux donner de l'argent ». Il paraît qu'il a sauvé...
Je pense que c'est vrai.
C'est sublime quand même comme histoire, c'est magnifique.
Oui. Mais vous savez, Borg a été un adversaire très important pour McEnroe. McEnroe, souvent, quand il faisait scandale sur le terrain, c'était souvent pour brimer aussi son ennui. Et finalement, on le verra rarement contester ou rentrer dans justement une forme de théâtre contre Borg. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il le respectait. Et il n'avait pas besoin justement de jouer les insurgés ou les effrontés pour battre Borg. Ça a été son plus son adversaire le plus important. Oui.
Alors ce n'est pas qu'une colère et un style. Hein. McEnroe, c'est aussi un immense palmarès. Hein. Il y a 7 tournois du Grand Chelem, il y a 5 Coupes Davis. Il est deux fois numéro un, à la fois numéro un en simple et en double à la même année, ce que personne n'a jamais réussi à refaire depuis. C'est aussi un immense champion. Voilà, c'est
champion,
pas qu'une colère.
Ouais. Il adorait jouer, représenter son pays.
Bien sûr.
C'est un gars qui n'a jamais. Et, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a rarement vu Connors. Du fait de leur grande rivalité, Connors a. McEnroe a toujours tenu jouer et défendre la Coupe Davis et Connors a préféré s'écarter parce que ces deux-là avaient ils avaient une telle personnalité qu'ils préféraient s'éviter.
Alors après sa carrière, Thomas, allez-y.
Non, il faut juste, par rapport au palmarès, il faut quand même insister sur le fait que les joueurs à l'époque ne jouaient pas l'Open d'Australie. C'est-à-dire qu'ils étaient sur herbe.
On n'aimait pas trop y aller, en fait.
Oui, c'était le calendrier, c'était en décembre. Donc on peut imaginer le palmarès de McEnroe
autrement.
À partir de 88,
s'il était allé jouer, allé glaner quelques titres supplémentaires.
En fin de carrière, il tente une carrière éphémère de musicien avec un groupe. Il y a une tournée qui est organisée aux États-Unis. Bon, mais il va intégrer les médias. Et aujourd'hui, il est encore là, John McEnroe. Il commente le tennis à la télévision américaine et anglaise. Et il n'a pas changé.
Avec
John.
Brio.
Il est là. Ouais. Mais dans un monde aseptisé aussi des médias, hein, de plus en plus aujourd'hui. Il détonne, c'est-à-dire quand on le voit faire ses vidéos...
Confirme, c'était un gars intelligent.
Mais il est extraordinaire. Bon, vous le voyez un peu, Thomas, aujourd'hui
un
à la télévision
peu,
ou pas
parce qu'il, mais c'est quand même une colère organisée. On n'est pas dans la nécessité
c'est un peu show-off,
physiologique c'est un peu show-off. De l'époque de ces grands matchs.
C'est un peu
mais
le coup de théâtre.
Je voulais juste dire quelque chose par rapport à tout ce qui a été dit, insister. L'étymologie du mot tennis, c'est tonner. Donc, d'accord, c'est l'aristocratie. Et il y a quand même quelque chose de tout à fait saisissant, c'est le service de McEnroe. On n'en a pas parlé, c'est-à-dire il s'est allé de dos. C'est vraiment aussi une manière d'indiquer un certain mépris ou une certaine distance avec l'adversaire. Dans mon livre, je compare ça à Miles Davis parce que dans les dernières années de sa vie, Miles Davis s'est mis à jouer debout et il y a beaucoup de gens qui ressortaient de ses concerts absolument scandalisés parce qu'ils avaient l'impression d'avoir été...
Qui son service inspirera Sampras, ça c'est pour vous rappeler que quand même Sampras s'est inspiré énormément de services techniquement. C'est énormément inspiré du service de McEnroe, qui Federer s'est inspiré de Sampras.
Federer s'est inspiré de
absolument,
McEnroe.
Et ça je vous le confirme. Par contre, ce qu'il avait aussi d'unique, c'est qu'il utilisait la même prise pour tous ses coups.
Ah oui, la prise.
Et il y en a un autre qui suivra aussi derrière, c'est Edberg.
Un petit document exceptionnel quand McEnroe est très jeune, il doit avoir 20 ans, il est interviewé. Avec une désinvolture, les Italiens appelleraient ça la sprezzatura, c'est-à-dire qu'on lui demande mais comment vous faites, revers, coup droit,
comme
donc
ça.
Il a sa raquette, il faudrait coup droit comme ça, tout ça a l'air c'est l'enfance de l'art, c'est vraiment
absolument,
il n'y a pas il y a pas la moindre crispation
tous les connaisseurs de tennis, ça s'appelle la prise marteau,
marteau. pour faire écho à ce service de dos de John McEnroe qui fait donc dos à l'aristocratie quelque part, c'est une manière symbolique de dire ça peut-être à l'adversaire, mais je parle de l'aristocratie parce que ce qu'on ressent aussi dans votre livre, Thomas, c'est que cette génération, emmenée par John McEnroe, elle a liquidé quand même un monde suranné du tennis. Eux qui ont expurgé un peu le tennis d'un côté un peu engoncé de la bourgeoisie. Ça, c'est vrai. Quand il arrive à Wimbledon, quand même le jardin de l'aristocratie anglaise, waouh, c'est compliqué d'avoir un McEnroe quand même en face à soi. Même
non, vous avez raison.
Thomas.
Oui, bien sûr. Il s'en est expliqué lui-même. C'est-à-dire qu'il y a presque, quand on lit ses mémoires, quelque chose de politique pour lui. Il explique, en effet, le monde du monde aseptisé, le monde du country club, etc. Donc, il introduit en effet une sorte de violence qui est à la mesure comme un artiste d'une certaine manière, comme l'artiste qui est le médium de toute son époque, de toutes les forces nouvelles qui sont en train de s'installer. Et effectivement, il est le réceptacle de ces forces nouvelles et il les introduit de manière très spontanée. Je ne vais pas faire de McEnroe
spontané,
un intellectuel.
Oui, spontané, c'est vraiment le bon mot parce qu'en fait, lui, il ne sait pas qui il est encore McEnroe. Il réalise justement à Wimbledon. À 18 ans, c'est déjà de très beaux brouillons. Le tennis, le toucher de McEnroe et tout ce qui va avec, c'est déjà de beaux brouillons. Mais il prendra forme. McEnroe, sa personnalité se peaufine à Wimbledon quand il se rend compte que d'un seul coup, quand il dit un gros mot ou quand il jette sa raquette, à un moment donné, il manque de briser sa raquette. Les gens font « Oh !» D'un seul coup, lui qui est de New York, il dit « Oh !» Il réalise d'un seul coup qu'il fait de l'effet. Puis, il s'est dit « Tiens, allons plus loin, changeons de côté, et là, il la brise. » C'est rare, il a rarement brisé, il a cogné sur des choses, mais il a rarement brisé sa raquette. Et là, d'un seul coup, il entend « Oh !» Et là, il dira lui-même que la boîte de Pandore s'est ouverte.
Eh oui.
Et c'est là où il, vraiment, McEnroe naît à ce moment-là.
Mais à ce moment-là, et on a l'impression que l'Angleterre est un peu, incarne un peu la vieille Europe.
Mais c'est un anticonformiste aussi, oui. Très clairement. Et puis,
En tout cas, merci à vous deux d'être venus ce soir. J'encourage tous nos auditeurs à lire vos deux livres. D'une part, les réflexions tennistiques de Catherine Tanguy, c'est passionnant. Je lâche les coups, c'est l'édition Solar. Vous pouvez également lire la réflexion de Thomas Ravier consacrée à John McEnroe. Ça s'appelle Le scandale McEnroe chez Gallimard. Et puis aussi votre nouveau roman qui vient de sortir, Thomas, toujours chez Gallimard, qui s'appelle Les Hautes Collines, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça.
Je me permets de dire juste un mot. Le livre de Thomas est formidable.
Je l'ai
absolument dévoré. Il est très, de point de vue fan, mais aussi littérairement,
c'est magnifique. C'est la joueuse de tennis qui parle.
Ah oui, je suis régalée. J'ai vraiment reconnu le personnage McEnroe. Formidable.
Et par ailleurs, vous pouvez aussi voir le film de Janus Smets Pedersen, Bjørn McEnroe, qui sort au cinéma mercredi 8 novembre.